Salut.
Coucou.
Salut. Nous sommes le 7 avril et on est toujours sur
39.9.
Et toujours en duplex. De partout et d'ailleurs.
Évidemment.
Sautons dans l'autobus, nous y verrons.
Petit morceau de Matalapena, une compile de Mississippi Records. Et maintenant, nous allons avoir un petit flash info avec les nouvelles du monde et d'ailleurs.
Bonjour, à défaut de notre info chronique, on a aujourd'hui des petits flash info avec une grosse parenthèse sur l'Italie. Voilà, les petites boulettes autour des masques. Après la semaine dernière avoir distribué dans tous les hôpitaux du Piémont plein de petits masques pas aptes à arrêter le virus. Le gouverneur de la Lombardie met un arrêt avec lequel dit que c'est obligatoire de porter ces masques tout le temps. Et du coup, plein des Italiens se sont retrouvés ce matin à faire la file en face des pharmacies où supposément, il avait 3 millions de masques qui étaient arrivés. Et en fait, ben non, il avait aucun masque qui était arrivé. Voilà, du coup, les petites arrêts. Voilà. Bon, d'accord. Et pour faire comprendre que la gestion des épidémies, ce n'est pas que sanitaire, mais aussi politique, je vais vous dire des petites anecdotes. Alors, en Italie, c'est les régions comme en France qui décident les différentes mesures adoptées en face de l'épidémie. Alors, un des exemples, c'est les tests coronavirus. Alors, il y a deux types de tests. Les tests tampons qui, pour simplifier, illustrent la philosophie « je reste à la maison ». Ils marchent comment ? Ils trouvent le virus dans les muqueuses respiratoires et aident à détecter qui est en train de tomber malade pour l'isoler. Et les tests sérologiques qui décrivent la philosophie « Milan ne s'arrête pas ». Ils détectent la présence des anticorps pour établir qui est prêt à retourner à travailler et à sociabiliser. Ni l'un ni l'autre sont 100% fiables. Peut détecter des faux positifs ou des faux négatifs. Et les grands débats sur lesquels des deux adoptés ne concernent pas que les scientifiques, mais aussi gouverneurs, politiques et dirigeants d'entreprises. Voilà. Entre-temps, la Confindustria, l'organisation représentative des entreprises italiennes, fait pression pour la réouverture des entreprises. Particulièrement dans la région Veneto. Hier, on a compté la demande de dérogation pour la réouverture des 15 000 entreprises. Les décisions sont aux mains des préfectures qui, pour le moment, peuvent étudier que 100 cas par jour. Et du coup, sur la corde tacite des politiques, beaucoup ont déjà réouvert. Voilà. Petite nouvelle maintenant qui pourrait changer nos habitudes de se promener avec nos animaux domestiques. ça commence, on a découvert à New York une tigresse malade de coronavirus. Avec 7 ou 8 félins qui sont hébergés avec elle dans son zoo, qui aussi présente des symptômes. Deux chiens sont aussi positifs à Hong Kong, un chat suspect en Belgique et un chat vérifié à Hong Kong. Voilà, on est foutu.
Bon, on va être tous
crevés.
Les chats, surtout. Ah merde, il faut
On va perdre notre alibi pour la promenade avec nos chiens.
Ah ouais. Sachant qu'il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter en promenant son lapin et il a pris 135 euros d'amende. Ouais.
C'est parce qu'il a récidivé.
Il est sorti deux fois son lapin ?
C'est ça. Attends. Un laisse.
Et du coup, on nous avait... Ah non, c'est pas fini.
Pardon. Ouais, j'ai juste une petite nouvelle gay. Attends, je le mets où ? Voilà, un petit point sur les prisons. Alors, entre les 7 et les 24 mars, on compte 148 morts vérifiées dans tous les continents. Dans les prisons, j'ai oublié de dire, à cause des révoltes. Alors, en Colombie, le 21 mars, il y a eu 23 détenus tués et 83 blessés. En Venezuela, le 18 mars, 84 évasions qui comptent 12 morts. Le 23 et 24 mars, en Argentine, 5 morts et plusieurs blessés graves. En Pérou, 3 morts et 30 blessés. En Brésil, 1375 personnes évadées, dont dans l'état de Sao Paulo, la moitié recapturée. La ministre des Justices, Margarita Cabello, en Colombie, affirme que les révoltes ne sont pas attribuées au coronavirus. Effectivement, on peut se dire que c'est juste la petite touche en plus qui fait... qui se rajoute aux violences, à la peur et aux humiliations que les prisonnières viennent vivre quotidiennement. Voilà, désolé pour la lecture.
Bah, merci.
Et
merci,
c'était les petites infos. Nouvelles gays. Merci.
Est-ce qu'on n'aurait pas un petit point météo là?
Ah oui. Oui, il arrive avec un peu de retard. On a la météo d'hier, mais bon, on a l'habitude de parler de choses qui s'étaient passées avant. Donc, la météo d'hier, la voici. Les mots retenus des collègues météorologues, dépression et instabilité. De la moitié nord à la moitié sud, il semblerait que la météo n'intéresse son père. Puisque comme des cons finés, on s'en balance. Eh bien, sachez que pendant que le coronatruc erre dans les rues avec la flicaille, peut-être que le brouillard va s'installer et nous laissera sortir sans être vu pour une deuxième balade du jour, au moins. Comme prévu, il y a maintenant 6 ans, 6 jours, 6 heures, la pluie ne devrait pas tarder à arriver. Avec les jours à venir, de nombreuses dépressions sur la totalité du territoire. Mais à défaut de... masque, le gouvernement nous promet un parapluie par famille, à l'exception des chômeurs, RSistes et sisters, travailleuses, sociaux, infirmières, fermières, prisonnières, caissières. Plus d'infos sur le site ni vu ni connu, jetembrouille.gouv.fr.
Merci.
Et donc c'est la météo que nous avons reçue par...
texto, ouais. Au 07 53...
Non, non, 07
53 15 33 68.
C'est bon.
Voilà, on a écouté une petite danse de la pluie des Balkans qui s'appelait Papa Ruda de Suso Rile Osoyana. Voilà, pour en attendant la pluie pour légumes et autres fermières qui attendent que ça, qu'il pleuve. Et est-ce qu'on réécoute de la musique ou on passe au point sur les camps de réfugiés?
Un petit jingle et
un petit jingle et on s'y met.
Trente-neuf, bof, c'est juste une question de température.
Ok,
Ok, alors si vous aviez encore le sourire, quittez-le immédiatement. Je sais plus comment assumer de saper l'ambiance à chaque fois que je prends la parole, alors j'essaye de faire des blagues dessus, mais bon.
Mais c'est important.
Ouais, il y en a qui disent que c'est important. Non, mais moi aussi je trouve que c'est important. Alors, eh ben, on va discuter un peu, enfin on va discuter, en fait je vais parler des camps de réfugiés en Grèce un peu. Et commencer par une petite citation d'une organisation qui s'appelle Legal Center Lesbos, qui est une organisation d'avocats et de gens qui sont défenseurs des droits des réfugiés à Lesbos, donc en Grèce, qui dit « Les restrictions disproportionnées qui s'appliquent à la circulation des migrants ne sont pas prises pour protéger la santé publique. Si tel était le cas, l'amélioration immédiate des infrastructures sanitaires et de santé des camps serait en cours. » Tout comme l'évacuation des migrants vulnérables et immunodéprimés. Du camp de Moria à Malakassa et à travers la Grèce, les migrants sont confinés dans des conditions inhumaines et ils courent un risque extrême d'une épidémie de Covid-19 volontairement incontrôlée et incontrôlable. Voilà, et donc dans un communiqué publié la semaine dernière, l'ONG Médecins Sans Frontières pressait les autorités grecques et européennes à évacuer les camps surpeuplés situés sur 5 îles de la mer Égée où 40 000 demandeurs d'asile sont bloqués. Wow. Ce qui est une demande depuis déjà en fait plusieurs années. Il paraîtrait que l'Union européenne aide la Grèce à préparer un plan d'urgence pour faire face à une propagation de l'épidémie dans les camps. À suivre, on verra ce que ça donne. Et donc, pendant la préparation de ce plan d'urgence dont on attend des nouvelles avec autant de craintes que de petits grains d'espoir, l'accès au camp est interdit aux visiteurs étrangers et les sorties des exilés sont limitées au maximum. Ça veut aussi et surtout dire, entre autres, que les organisations de solidarité sont de moins en moins, voire plus, admises dans les camps, que les relations entre les réfugiés et leurs avocats sont coupées, que les allers-retours hors des camps pour subvenir aux besoins matériels sont interdits et plus contrôlés encore. Et j'en passe des conséquences de tout ça. En attendant, à quelques dizaines de kilomètres d'Athènes, il y a un deuxième camp qui vient d'être mis en quarantaine. Donc il y a déjà deux camps qui sont mis en quarantaine depuis la semaine dernière. Le deuxième depuis hier. Les gens n'ayant plus du tout le droit de sortir, les aides et les suivis administratifs sont stoppés. L'OIM, qui est l'Organisation internationale des migrations, qui n'est pas vraiment une organisation camarade, estime qu'ils ont encore de la nourriture pour les trois prochains jours et donc n'approvisionnera pas le camp avant ces trois jours. Dans le camp de Moria, situé sur l'île de Lesbos, où il y a 20 000 personnes qui sont enfermées alors que le camp avait été construit pour une capacité de 3 000 personnes, et à propos duquel les résidents et de nombreuses ONG crient au scandale depuis déjà plusieurs années, le qualifiant de honte pour l'Europe. Il n'y a aucune possibilité de distanciation sociale et l'équipement médical nécessaire n'est pas disponible dans ce camp-là. Il n'y a que 4 médecins pour les 20 000 personnes. Médecins Sans Frontières est toujours sur place mais à l'extérieur du camp, ce qui inquiète beaucoup les gens dans le camp. Puisque si Moria est également mis en quarantaine, les gens auront encore plus de difficultés à accéder à des soins. Et à Moria, les résidents du camp s'organisent eux-mêmes pour faire de la prévention, coudre des masques au milieu d'un gros bordel psychologique, administratif et avec peu de moyens et peu de choses, voire rien mis en place par les instances européennes du type le HCR, qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais pas des camarades non plus.
Bah, c'est eux qui montent les camps, non aussi.
Ouais, c'est eux qui font aussi des trucs qui sont garants de trucs administratifs, de plein de trucs. Enfin, et c'est eux qui bafouent beaucoup les droits des réfugiés, ou en tout cas qui apportent pas beaucoup de soutien. Voilà, donc il y a un peu rien qui est fait par ces instances internationales et européennes, à part le prolongement des dates d'expiration des demandes d'asile jusqu'à la réouverture des bureaux, ce qui veut aussi dire la suspension des démarches et de l'obtention d'un statut. Un autre petit point cynique qui est que les personnes en demande d'asile dans les camps ne pourront pas toucher leur petite aide de l'État grec qui est normalement liquide et à hauteur de 90 euros pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait des distributeurs automatiques qui soient installés dans les camps. Il n'y a pas trop de nouvelles de savoir qui, quand, quoi vont être installés des distributeurs, mais voilà. À Malte aussi, il y a un camp de réfugiés qui est également mis en quarantaine.
Et j'avais envie de citer une autre petite citation d'un article de Legal Center Lesbos qui en dit pas mal, qui dit « L'épidémie de Covid-19 est instrumentalisée par les États du monde entier pour atteindre des objectifs politiques préexistants, ce qui met en évidence la priorité actuelle de la fonction économique sur la vie humaine. » Alors qu'elle a permis de couvrir l'extension du centre de détention par le gouvernement grec et son contrôle accru sur la mobilité des migrants, les personnes qui ne peuvent pas travailler chez elles, comme celles qui travaillent dans les services publics ou dans les usines, continuent à travailler normalement avec un risque élevé d'exposition et d'infection par le Covid-19. À moins que les migrants et les citoyens et citoyennes ne s'organisent pour résister à la soumission de leur sécurité aux objectifs de l'État, les politiques insidieuses introduites sous le couvert de cette pandémie perdureront bien au-delà du virus lui-même. Voilà, alors j'ai noté quelques bonnes nouvelles, entre guillemets, quand même, parce que sinon à force on pourrait un peu appeler cette chronique, on pourrait la renommer la chronique, la rubrique des primes, ou regarde ailleurs et pleure, ou on peut inventer plein de trucs, mais... Mais voilà, pour retrouver un petit sourire. Donc, on avait parlé ces derniers jours du fait qu'il n'y avait pas de bateau d'ONG de sauvetage en Méditerranée depuis le début du confinement et qu'il y en avait un qui est arrivé, la Suken, de l'ONG Sea Eye, qui est sur zone depuis ce week-end et qui a là récupéré depuis hier 150 personnes de deux bateaux différents et qui attend d'avoir accès à un port sûr où les débarquer. À suivre, on filera des infos quand il y en aura. Et pendant ce temps, le 5 avril, donc dimanche, il y a un couple qui se mariait à Belgrade. Et j'ai trouvé une petite citation du marié qui dit « Pourquoi pas, nous avions envie de casser un peu toute cette folie. C'est comme si on partait nous marier à Las Vegas, sauf que ce n'est pas Vegas, mais le Corona. » Voilà. un petit point grève des loyers. Parce qu'en Albanie, depuis le 3 avril, le gouvernement a lancé un communiqué pour suspendre les loyers pour les mois d'avril et de mai pour les étudiants et les personnes qui ont perdu leur emploi à cause du coronavirus. Et donc ça stipule bien que si les propriétaires refusent de se conformer à ce décret, ils devront payer une amende de 5 fois le loyer mensuel. Voilà, alors à quand est-ce qu'on tous les pays vont s'y mettre, on verra. En tout cas, il y a un truc sur Twitter, moi, que j'ai peu... Il y avait un gros mouvement hashtag grève des loyers qui a l'air de s'être un peu transformé en hashtag grève infinie. À aller voir, moi, je suis juste allée sur la page, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. Et dernier petit point, pendant ce temps-là, chez Madonna, on a trouvé que les stars se plaignent de la pluie sur Instagram. Alors, faudrait dire à Légumane où est-ce qu'il pleut, je ne sais pas exactement. Mais...
Là où il y a des stars.
Voilà, là où il y a des stars, il pleut. On pourrait vendre des légumes aux stars, Légumane. Mais voilà, et donc les stars publient des chroniques de leur vie confinée dans d'immenses propriétés qui leur permet, on imagine, de dépasser le kilomètre autorisé. Puisque leurs terrains doivent sûrement faire plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, Madonna a lancé un petit article sur Instagram dans lequel elle prône l'égalité de tous et de toutes face au virus. Donc, elle parle des générations, des riches, des pauvres, de tout plein de trucs, tout en étant en train de se baigner à poil dans des pétales de rose. Voilà. Merci Madonna. Vive l'égalité.
Marie-Antoinette, quoi.
C'est ça.
Si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche.
Voilà.
Tout simplement.
Bisous.
Je suis désolée, j'ai ce que j'ai.
Blind. When we were I'm completely finished with you. I've had it with you and your fucking stupid radio shows.
La radio qu'on n'a pas envie d'éclater.
Là, c'était Frustration, un morceau qui s'appelle Blind.
Ok, et donc maintenant, on va se lire une petite recette de cuisine de Nouchmi pour continuer à se confiner un peu plus dans son appartement. On pourra se confiner devant les fourneaux. Donc, ça y est, on est... Mardi, c'est confit, youpi. Alors, aujourd'hui, on va passer à une vraie recette de confinement. Une qui prend du temps, de quoi confiner quelques heures. Pourquoi du canard confit ? D'abord parce que lui, il est confit, contrairement à nous. Tout déconfit que nous sommes d'être confinés. Et s'il est confit, c'est qu'il a d'abord été confiné longtemps, un peu comme vous. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça veut dire que par extension, nous qui attendons à être un jour peut-être déconfinés, nous sortirons plutôt confits et ressemblant un peu à des canards, marchant sur notre petite patte démusclée au-dessus desquelles se seront formées des petites bouées grasses qui nous permettront de flotter au cas où, après, il y aura en plus un tsunami. Et puis, s'il n'y a pas de tsunami, on pourra tous prendre Michelin comme nom de code. Enfin bon, je m'égare. Le confit de canard est une recette qui aurait été inventée par peur de la pénurie alimentaire, à l'Antiquité. Eh oui, ils avaient vu venir, eux, la peste, les famines, le choléra, les guerres et autres réjouissances de ce monde. Et en voyant que la viande, une fois cuite, recouverte de graisse et ensevelie sous du gros sel, plus aucun microbe ne pouvait l'atteindre, elle devenait presque immortelle. Ça donne des idées, non ? Perso, si c'est le cas, moi je veux bien m'enduire de gras et me frotter au gros sel. À poil avec un masque, le corona, c'est pas pour moi. Encore une expérience pour les jours à venir. Pour en revenir à nos oignons, confits ou non, on prend un canard, on lui enlève un maximum de gras et on frotte sa chair nue, délicatement avec du gros sel, sensuellement en pensant au petit texte érotique auquel on va participer et qui inclut, je vous le rappelle, les mots tuile, passage à gué et sapin. Inspiration, inspiration. Et quand par ces mots vous serez tout émoustillé, eh bien vous pouvez aller vous coucher avec ou sans votre canard qui doit de tant de volupté une nuit se reposer. Le lendemain, vous allez broyer le gras, comme d'autres broient du noir. Et là, pour vous mettre du baume au cœur, je vous conseille de penser plutôt à une autre volaille, le poulet. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces volailles qui viennent jusque dans vos bras emmerder vos fils et vos compagnes. Les poulets, eh oui, eux, ils sont pas confits ni confinés et pourtant on aimerait bien parce que en plus de nous déplumer des quelques deniers qui nous restent, ils nous cuisinent et nous confinent, certains de nous dans leur poulailler. Le poulet, c'est la honte de la volaille. Pour les autres, c'est le délit de sale gueule. Eh oui, si t'es un dindon, t'es la farce. Et comme l'heure n'est pas à se taper le cul par terre de joie, tu restes chez toi. Si t'es une oie, selon le dicton, t'es trop con. Tu restes chez toi. Si t'es une poule, tu es trop mouillée, tu vas t'enrhumer, puis le couvre-feu, ça te connaît. Avant tout le monde t'es couché, tu restes chez toi aussi. T'es une dinde, on te rappelle que c'est Noël, c'est pas pour tout de suite. Nous prends pas pour des quiches, toi aussi, tu restes chez toi. Et le chapon sans coronesse, au temps du corona, tu t'engraisses, reste chez toi. T'es canard, t'es confit, ou t'as froid, t'as l'habitude, tu restes chez toi. Et puis nous, comme je le disais, plumer, confider, vider, cuisiner. Alors moi je dis, profitons de cette recette pour exprimer nos envies les plus obscures. Broyons avec rage ce gras, écrasons entre nos doigts, passons le mille fois à la moulinette jusqu'à ce qu'il ne reste plus une fibre d'agressivité. Plus possible, plus de possible résurrection. Broyons-le jusqu'à l'insurrection et crions, hurlons, les poulets à la broche, les poulets à la broche. Ah, ça remet les poumons en place. Plus d'insuffisance respiratoire, plus un souffle d'hésitation. Jetez le gras dans une marmite et laissez-le agonir jusqu'à ce qu'il se liquéfie. Voilà, il n'y a plus aucun risque. Alors, après avoir dessalé votre chair tendre, posez-la délicatement dans le fruit de votre vengeance et laissez-la s'y baigner tendrement pendant 2 heures. Et c'est tout. Ensuite, vous pouvez vous régaler directement un petit rictus satisfait au coin des lèvres ou jouer à la graisse et confiner le tout dans une jarre. Vous vous sentirez moins seul. À demain.
Bra bra bra. Poulet au gigot.